Chapitre 6. Assise dans le fauteuil du salon, son coin lecture préféré, Irène attendait Laura, qui était en retard. Le fauteuil, qui faisait jadis partie d'une paire, mais dont le pendant avait depuis longtemps fini à la décharge, était positionné tout contre la fenêtre. C'était l'endroit de la pièce où on pouvait profiter du soleil toute la matinée et une bonne partie de l'après-midi. L'endroit depuis lequel Irène regardait passer le temps, pendant que le temps, de son côté, la regardait satisfaire aux activités qui l'attendaient d'une personne âgée. Somnolée des journées entières, seule, à songer à ses souvenirs, à l'âge d'or révolu, aux occasions manquées et aux morts. Sauf que ce n'était pas du tout ce que faisait Irène. En tout cas, pas exclusivement. Pour l'heure, elle attendait Laura qui devait venir lui faire ses courses de la semaine et, pour patienter, elle opérait un tri parmi les 3 cartons de livres que Carla Meyerson lui avait déposés la semaine précédente. Les livres avaient appartenu à une morte, Angela, la sœur de Carla et la voisine d'Irène. Sa meilleure amie aussi. « Ils n'ont aucune valeur », l'avait prévenu Carla. « Ce ne sont que des poches. Je comptais les donner à une boutique solidaire. » Et puis je me suis dit... Elle avait embrassé le salon d'Irène d'un rapide regard circulaire, puis avait froncé le nez avant d'ajouter « Je me suis dit que ce serait peut-être votre tasse de thé. » Une insulte déguisée, avait estimé Irène. Non qu'elle en eût quelque chose à faire. Carla était le genre de femme qui savait mettre un prix sur tout, mais qui ne connaissait la valeur de rien. Ils n'ont aucune valeur. C'était bien là la preuve de son ignorance. Certes, lorsque Irène ouvrit certains des plus vieux ouvrages, principalement des romans de la maison d'édition Penguin Books, reconnaissables à leur couverture orange vif, elle constata qu'ils s'effritaient sous ses doigts. L'acidité du papier avait commencé à grignoter les pages, les rendant friables, les détruisant de l'intérieur. C'était terrible quand on y pensait. Tous ces mots, toutes ces histoires qui disparaissaient peu à peu. Hélas, pour ses livres, Irène n'aurait pas le choix, elle devrait les jeter. Les autres, en revanche, se révélèrent effectivement à son goût. D'ailleurs, il y en avait beaucoup dans le lot qu'elle avait déjà lu. Avec Angela, elle passait leur temps à s'échanger des bouquins, en particulier des polars, dont elle raffolait. Pas les romans très violents qu'on publiait de nos jours, mais plutôt les histoires bien ficelées, comme savaient les écrire Barbara Vine ou P.D. James. Carla Meyerson, elle, devait faire partie de ces gens qui considéraient la littérature policière comme un sous-genre méprisable. Le fait qu'Irène avait déjà lu la plupart des livres entassés dans les cartons importait peu. Ce qui comptait, et ce que Carla ignorait certainement, alors même qu'il s'agissait de sa propre sœur, c'était qu'Angela était une véritable vandale avec ses propres livres. Une briseuse de dos, une plieuse de coins, une gribouilleuse de marge. De sorte que lorsqu'on feuilletait son exemplaire de La maison hantée de Shirley Jackson, par exemple, on pouvait remarquer qu'elle avait souligné certaines phrases. La malheureuse a succombé à la haine, elle s'est pendue. Quand on tournait les pages de Vera va mourir de Ruth Rendell, on découvrait qu'elle partageait les sentiments que ressentait l'héroïne vis-à-vis de sa sœur. « C'est exactement ça », avait-elle inscrit dans la marge, à côté du passage qui disait « Rien ne tue autant que le mépris, et le mépris que je ressentis soudain pour elle me monta aux joues. » Parfois, on tombait sur un objet ayant appartenu au passé d'Angela. Un marque-page, un billet de train, une liste de courses, cigarettes, lait, pâtes. Dans « Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme » de Cormac McCarthy, se trouvait une carte postale achetée au Victoria and Albert Museum. La photo d'une maison entourée d'une palissade blanche. Dans « La mort dans les bois » de Tana French, Irène dénicha une feuille avec un dessin de 2 enfants se tenant la main. Dans « Le jardin de ciment » de Ian McEwan, c'est sur une carte d'anniversaire qu'elle mit la main. Elle était bleue et blanc, froissée à force d'avoir été manipulée. Il y avait un bateau sur la couverture et quelques lignes manuscrites à l'intérieur. « Mon cher petit Daniel, je te souhaite un très joyeux 10e anniversaire. Je t'embrasse très fort, Tati Carla. » Ils n'ont aucune valeur. Quelle absurdité. En vérité, lorsque vous lisiez un livre ayant appartenu à Angela Sutherland, c'était comme si vous entamiez une conversation. Et comme, hélas, il n'était plus possible d'avoir de véritables conversations avec Angela, pour Irène, ces livres avaient de la valeur. Une valeur inestimable. Si elle n'avait pas été aussi inquiète du retard de Laura, Irène aurait sûrement apprécié de passer sa matinée à lézarder au soleil, tout en triant les livres et en regardant par la fenêtre le défilé des employés de bureau et des mères accompagnant leurs enfants à l'école. La petite maison à un étage d'Irène se trouvait à une extrémité de Hayward's Place, une allée piétonne coincée entre deux artères au cœur de la ville. D'un côté de cette allée se dressaient cinq maisonnettes identiques contiguës. Irène habitait au numéro 2. De l'autre, un immeuble de bureau quelconque construit en lieu et place du Red Bull, un illustre théâtre élisabétain qui aurait, selon la légende, brûlé dans le grand incendie de Londres. Ce passage étant un raccourci bien connu des habitants du quartier, il restait toujours très passant, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, surtout en semaine. Mais que pouvait bien fabriquer Laura ? Elle s'était pourtant mise d'accord pour ce mardi, non ? Quand Laura venait, c'était souvent le mardi, parce qu'elle commençait plus tard à la laverie ce jour-là. Était-on mardi ? Irène pensait que oui, mais à présent elle avait un doute. Elle se leva de son fauteuil avec beaucoup de précautions. Elle s'était foulé la cheville quelque temps auparavant, raison pour laquelle elle avait besoin de quelqu'un pour lui faire ses courses. Contourna les petites piles de livres sur le sol, ceux qu'elle avait lus et ceux qu'elle n'avait pas lus, ceux qu'elle voulait garder et ceux qu'elle comptait donner à la boutique solidaire, et traversa le salon, qui contenait pour tout mobilier le fauteuil, un petit canapé, une commode où trônait une minuscule télévision qu'elle ne regardait quasiment jamais, et une bibliothèque sur laquelle était posée une radio, qu'elle alluma. À 10h, l'animateur confirma qu'on était bien mardi. Le mardi 13 mars, précisément. Puis il déclara que la première ministre, Theresa May, avait laissé aux Russes jusqu'à minuit pour justifier l'empoisonnement d'un ancien espion à Salisbury. Il relata qu'un député travailliste niait avoir donné une tape sur les fesses d'une habitante de sa circonscription. Et il révéla qu'une jeune femme était en garde à vue à la suite du meurtre de Daniel Sutherland, un homme de 23 ans dont le corps sans vie avait été retrouvé le dimanche précédent à bord d'une péniche sur Regent's Canal. Le journaliste continua à énumérer un bon nombre d'autres nouvelles, mais Irène ne l'entendait plus à cause du vrombissement dans ses oreilles. Elle s'imaginait des choses. C'était forcément cela. Daniel Sutherland ? Impossible. Les mains tremblantes, elle éteignit la radio pour la rallumer quelques instants plus tard, mais le présentateur était déjà passé à la météo et annonçait l'arrivée d'un front froid. Peut-être s'agissait-il d'un homonyme. Combien pouvait-il y avoir de Daniel Sutherland à Londres ? Irène, n'ayant pas acheté le journal ce matin-là, il faut dire qu'elle ne l'achetait presque plus jamais, elle ne pouvait pas vérifier si c'était bien le Daniel Sutherland qu'elle connaissait. Elle avait entendu dire qu'il était possible de se renseigner avec son téléphone portable, mais elle ne savait pas comment s'y prendre, et de toute façon, elle ne se souvenait pas où il était. Perdu quelque part à l'étage, certainement, avec la batterie à plat. Non, elle allait devoir faire comme au bon vieux temps et aller elle-même acheter le journal. De toute façon, elle avait aussi besoin de lait et de pain, et comme Laura ne semblait pas décidée à venir, dans l'entrée, elle enfila son manteau et ramassa son sac et ses clés pour se rendre compte, en ouvrant la porte, qu'elle avait toujours ses pantoufles aux pieds. Elle repassa donc au salon pour mettre des chaussures. Elle était un peu tête en l'air, voilà tout. Cependant, elle avait remarqué depuis quelque temps qu'elle ressentait désormais de la nervosité chaque fois qu'elle quittait son domicile. Avant, elle sortait tous les jours, que ce soit pour aller faire les courses, se rendre à la bibliothèque ou donner un coup de main à la friperie du quartier tenue par la Croix-Rouge. Mais il faut croire que les habitudes se perdent vite, après une longue période de confinement. Elle allait devoir faire attention, si elle ne voulait pas finir comme tous ces vieux qui restent cloîtrés chez eux, de peur d'affronter le monde extérieur. En attendant, elle devait reconnaître qu'elle était plutôt soulagée de ne plus avoir à se rendre au supermarché. Tous ces jeunes si impatients, si irréfléchis, si distraits. Non pas qu'elle eût quelque chose contre les jeunes, elle ne voulait pas non plus rejoindre cette autre catégorie de vieux, les aigris, hermétiques à tout, qui passent leur temps à pester, bien au chaud dans leurs chaussons beige achetés sur catalogue. Irène portait une paire de New Balance bleu et orange à scratch qu'Angela lui avait offerte pour Noël. Elle n'avait rien contre les jeunes. Elle-même avait été jeune à une époque. Sauf que les jeunes d'aujourd'hui avaient des idées préconçues. Enfin, certains jeunes. Ils partaient du principe que, sous prétexte que vous étiez âgé, vous étiez nécessairement sourde, aveugle et faible. Des qualificatifs parfois pertinents, parfois pas du tout. Irène, par exemple, avait une ouïe exceptionnelle. D'ailleurs, les murs de sa maison étaient si fins qu'elle aurait volontiers préféré être dure d'oreille. Mais bref, ce qui l'irritait vraiment, c'était les idées préconçues. En rentrant, elle ne trouva rien dans le journal sur Daniel Sutherland. Et comme en plus elle avait oublié d'acheter de la marmelade pour ses tartines, on pouvait dire que cette sortie était un échec complet. Seul point positif, elle finit par retrouver son téléphone dans la salle de bain, mais comme elle s'en doutait, la batterie était à plat et elle ne se souvenait pas de ce qu'elle avait fait du chargeur. Comme c'était exaspérant. Mais elle ne perdait pas la boule. Ce n'était pas de la démence. La plupart des gens avaient tendance à tirer tout de suite cette conclusion lorsqu'ils avaient affaire à une personne âgée un peu distraite, comme s'il n'arrivait jamais aux jeunes d'égarer leurs clés ou d'oublier un article sur leur liste de courses. Irène était certaine que ce n'était pas de la démence. Après tout, elle ne disait pas « torchon » à la place de « grippin » et elle ne s'était jamais trompée de chemin en revenant du supermarché. Elle ne perdait pas non plus le fil des conversations, enfin pas souvent, et ne rangeait pas la télécommande dans le réfrigérateur. Par contre, il lui arrivait d'avoir des coups de mou. Mais ce n'était pas de la démence. Le docteur le lui avait assuré. Simplement, lorsqu'elle se laissait aller, qu'elle oubliait de boire ou de manger, elle se retrouvait soudain épuisée, puis confuse et, avant d'avoir pu réagir, tout à fait désorientée. « Vos ressources ne sont pas infinies, Madame Barnes », l'avait prévenu son médecin la dernière fois qu'elle avait souffert d'une baisse de régime de ce genre. Il faut que vous preniez soin de vous, que vous mangiez correctement, que vous restiez hydratée. Sinon, pas étonnant que vous finissiez toute chamboulée. Continuez comme ça et vous risquez de faire une nouvelle chute. Ce serait quand même dommage, non ? Comment lui expliquer à ce gentil jeune homme à la voix douce et aux beaux yeux bleus, et au ton parfois un peu condescendant, que parfois c'était justement cet état qu'elle recherchait ? Comment lui faire comprendre que s'il était bien sûr effrayant de se sentir toute chamboulée, comme il disait, cela pouvait aussi se révéler excitant? Comment lui révéler qu'il lui arrivait de sauter volontairement un repas dans l'espoir de retrouver la sensation grisante de l'attente? Car lorsqu'elle était ainsi déboussolée, elle oubliait que William, l'homme qu'elle avait aimé et avec qui elle avait partagé son lit pendant plus de 40 ans, était mort. Elle oubliait qu'il était parti depuis 6 ans. Et cela lui permettait de se complaire dans le fantasme qu'il était simplement au travail ou au pub avec ses amis. Que bientôt elle l'entendrait siffloter en remontant la ruelle, qu'elle lisserait sa robe du revers de la main, se recoifferait rapidement et que, dans un instant seulement, elle entendrait sa clé dans la serrure. La première fois qu'Irène avait rencontré Laura, elle attendait le retour de William. C'était le jour où ils avaient retrouvé le corps d'Angela.